Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel, préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Il m'a fallu du temps pour développer cette idée que le cinéma moderne, né avec moi, était le cinéma d'un certain savoir sur les camps, savoir qui changeait les façons de faire le cinéma. Bonjour Ophir Lévy.
Bonjour.
La phrase n'est pas de vous, mais de Serge Danet, grand critique de cinéma profondément hanté par la Shoah, et vous l'avez placé en exergue d'un chapitre de votre livre, livre qui va nous occuper aujourd'hui. Il s'agit d'Images clandestines, métamorphose d'une mémoire visuelle des camps, publiée aux éditions Hermann avec le concours de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Ophir Lévy, vous enseignez l'histoire et l'esthétique du cinéma à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, non loin de notre studio. Vous avez 37 ans, vous signez là un livre, un premier ouvrage, second ouvrage, on va dire, qui fera date, hein, je pense, dans l'histoire du cinéma. J'ai envie de vous demander tout simplement, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous entendez par image clandestine? Est-ce qu'il s'agit d'images qui auraient été tournées clandestinement, par exemple, pendant la solution finale?
Alors non, merci de poser cette question parce que ça permet tout de suite de lever une ambiguïté. Image clandestine signifie dans cet ouvrage des images dont la source, on pourrait dire imaginaire, puise dans l'imaginaire de la déportation et du génocide des Juifs, et des images qu'on retrouve travesties sous d'autres formes dans des films qui, eux, n'ont absolument aucun rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Donc en gros, pour le dire de manière très simple, des images clandestines, ce sont ces images, par exemple, dans un film de science-fiction, où vous avez des extraterrestres qui vont être tatoués, parqués dans des camps, des clones qui vont être gazés, comme dans The Island, ou des personnages ramassés au bulldozer, comme dans Soleil Vert. Donc en gros, la clandestinité, c'est-à-dire le fait qu'une mémoire perce là où, a priori, on ne l'attendait pas.
D'accord, c'est très clair. Ça évite la confusion qu'on pourrait faire. Vous analysez dans cet ouvrage le régime, ce que vous avez appelé le régime de circulation de ces images clandestines, comment ces images ont cheminé à travers les films, selon trois modalités. Est-ce que vous pouvez nous les décrire?
Oui, les trois grandes modalités de retour de ces images sont, alors je vais les nommer puis les décrire un petit peu plus précisément, l'imagerie. On pourrait dire l'imagerie des camps, il faudrait que j'explique pourquoi je dis des camps avec
entre guillemets.
Je vais y revenir. La persistance des camps et la rémanence des camps là encore. Alors j'explique d'abord les camps. Je mets des guillemets à camps parce que c'est une expression qui est couramment utilisée. J'ai vu un film sur les camps. Ah tiens, il y a une exposition sur les camps. C'est une rescapée des camps. Et en fait, dans ce vocable camp, on mélange, et ça c'est quelque chose qui est encore en vigueur aujourd'hui, deux réalités qui sont hétérogènes d'un point de vue historique. D'un côté, la déportation dans un système concentrationnaire, Dachau, Buchenwald, une partie d'Auschwitz, évidemment. Et de l'autre côté, ce qui relève vraiment du génocide, là qui concerne plus spécifiquement les Juifs, et qui appartient à un autre espace, souvent, hein, on est plutôt très à l'est, hein, à la frontière polonaise, voire parfois encore plus à l'est, à la frontière ukrainienne, et c'est Treblinka, Sobibor, Chełmno, Belzec,
par exemple. Les centres de mise à mort.
Ce que Hilberg appellera les centres de mise à mort. Et ces deux réalités, la déportation et le génocide, dans l'imaginaire et le cinéma, il y a beaucoup contribué, sont toujours mélangés. Et donc on a toujours le sentiment qu'un camp ou les camps, ce sont des endroits où se mêlent de manière totalement cauchemardesque des personnes qui arrivent, qui travaillent, qui portent des pyjamas rayés, qui sont tatoués, qui sont envoyés à la chambre à gaz une fois qu'ils ne peuvent plus travailler, etc. Donc on mêle deux types de réalités qui, en fait, n'étaient pas nécessairement jointes.
Qui est lié peut-être à la façon dont ces images ont fait effraction aussi
absolument.
Dans l'univers de l'immédiate après-guerre.
C'est lié, voilà.
Dans la conscience. Hein,
oui, tout à fait. C'est lié, par exemple, au printemps 1945, hein, où ces images débarquent dans les actualités cinématographiques. Actualités, il faut le dire, elles sont très importantes. Sylvie Lindeberg les a d'ailleurs bien analysées. Importantes parce qu'en France, c'est à peu près 7 millions de spectateurs sur 40 millions d'habitants qui vont voir chaque semaine des actualités. Aux États-Unis, c'est à peu près 70 millions de spectateurs qui, chaque semaine, vont voir les actualités, y compris avec leurs enfants, puisqu'on va voir les actualités passent au cinéma avant le film de fiction, et donc on allait en famille au cinéma. Donc ces actualités ont un impact immense, puisqu'elles touchent des millions de spectateurs, et y compris des enfants. Enfants qui plus tard feront des films. Parmi eux, hein, y a des scénaristes et des futurs réalisateurs.
Donc ça, c'est un point très important, parce qu'en fait, ces images, elles ont été vues, hein. Elles n'ont pas été censurées. S'il y a eu oubli, c'est venu plus tard.
Voilà. En tout cas, elles ont, à l'époque, ces images sont vues. Alors, quelles sont ces images et comment elles reviennent? Puisque j'en reviens à la question initiale, comment
des
reviennent
modalités
ces,
de circulation.
Ces modalités de retour. Quand je parle de ces images-là, ce sont des images des camps de concentration. Là où on n'avait pas d'image des centres de mise à mort, puisque précisément les nazis avaient démantelé ces camps, précisément pour qu'il n'y ait pas de traces, donc elles n'ont pas été filmées, et il n'y a pas eu d'image dans les actualités. Donc les images des camps de concentration ont valu dans l'esprit des gens comme image du génocide. C'est pour ça qu'on mélange sans arrêt ces deux réalités. Pourquoi je parle d'imagerie, de persistance et de rémanence? Alors imagerie, il faut l'entendre comme imagerie d'Épinal. Imagerie, ce sont ces grands motifs, ces grands stéréotypes concentrationnaires qui reviennent. Les corps dénudés et squelettiques, les fosses remplies de cadavres, enfin, toutes ces horreurs qu'on a en tête, qu'on a vu dans Nuit et Brouillard par exemple. Le bulldozer de Bergen-Belsen qui charrie des corps, les chambres à gaz, les fours crématoires, etc. Donc les expériences médicales, tout cet ensemble de savoirs et de représentations donne lieu à une imagerie qui, elle, va être recyclée. Et quand je parle de recyclage de cette imagerie, c'est comment, dans tel ou tel film, on retrouve des chambres à gaz alors qu'on est en 2030. On retrouve des tatouages alors qu'on est dans un futur, comme dans Alphaville de Jean-Luc Godard, par exemple, où les femmes sont tatouées. Donc ça, c'est l'imagerie. La persistance, c'est quelque chose dont on fait tous l'expérience. Donc ça, c'est le deuxième temps. La persistance, c'est comment, dans notre vie quotidienne, notre regard est lui-même contaminé par ce souvenir de la déportation. Et ce souvenir de la déportation, c'est par exemple lorsque l'on voit un corps extrêmement amaigri de quelqu'un de malade, on ne peut s'empêcher, enfin c'est une expérience que beaucoup ont fait, on ne peut s'empêcher d'avoir une espèce de réminiscence de ces images tournées au printemps 45. Une fumée dans un paysage industriel peut susciter parfois le souvenir des crématoires. Et là-dessus, je m'appuie sur un certain nombre de récits, de témoignages, y compris de témoignages de malades et de médecins, qui permettent de voir comment, précisément, la manière dont on perçoit notre propre corps est, on pourrait dire, formée, informée, modulée par le souvenir de la déportation. Et enfin, la rémanence, ce que j'appelle rémanence des camps, c'est ce qui est le plus difficile à expliquer, parce que précisément, et c'est là que ça devient plus délicat, c'est ce qui ne se voit pas précisément. La rémanence en physique, c'est comment un effet persiste alors que sa cause a disparu. Donc comment dans des films qui n'ont pas de rapport avec la Seconde Guerre mondiale et dans lesquels il n'y a pas d'image qui puisse faire référence à la Seconde Guerre mondiale comme un clone tatoué ou un extraterrestre gazé, etc. Comment dans des films où il n'y a plus aucune trace, plus aucun signe, se manifeste quelque chose de sensible, quelque chose que l'on peut éprouver en tant que spectateur, dont la cause aurait à voir avec la mémoire de la Shoah. Et ça, c'est très compliqué à la fois à argumenter et à prouver, parce que précisément, c'est pas visible. Et pour pouvoir l'argumenter et le prouver, parce que je lutte dans le bouquin contre, on pourrait dire, l'arbitraire du décret qui consistera à dire « Ah, là, il y a la Shoah partout, ici, dans ce film, il y a la Shoah », ce contre quoi je lutte, pour pouvoir le documenter, il faut souvent se plonger dans les archives du film. Et c'est là qu'on découvre des choses passionnantes, comme par exemple, je donne un exemple rapide, dans « Je t'aime » d'Alain René, film qui est construit sur une pure banalité, c'est une expérience d'un voyage dans le temps qui doit durer une minute et le personnage revient, mais en fait, au lieu de revenir, il est envoyé dans le temps de manière complètement aléatoire et le film n'a aucun rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Et quand on puise dans le scénario et ensuite dans les différentes strates de tournage du film, on se rend compte qu'il y avait des scènes qui mentionnaient Auschwitz, on se rend compte qu'il y avait des mots qui ont été retirés au fur et à mesure du scénario, qui introduisaient un imaginaire beaucoup plus violent et beaucoup plus ancré dans la mémoire de la Shoah. Le scénariste, c'est Jacques Sternberg, lui-même juif, qui a été interné pendant la guerre, dont le père a été déporté à Sobibor. À l'époque, on croyait que c'était Majdanek, mais en fait, c'était à Sobibor. Et donc, il y a un imaginaire déjà dans l'œuvre de Sternberg qui va faire retour, mais de manière souterraine, dans le film d'Alain René.
D'accord. Alors, vous avez pris déjà un exemple, on peut en prendre peut-être d'autres par rapport aux deux autres modalités. Alors, j'en profite pour dire que vous êtes appuyé sur un corpus immense. Je crois que rien que l'index, il fait 4 ou 5 pages. Vous avez tout vu et vous ne faites pas de hiérarchie. Film de zombies, film de science-fiction, film de cinéma d'auteur, entre guillemets. Vous avez tout passé au crible. Vous êtes appuyé aussi bien sur aussi les critiques de ces films hein, de l'époque, sur les commentaires des cinéastes sur leurs propres œuvres, etc. Et ce corpus, vous l'avez analysé à l'aune de plusieurs disciplines, que ce soit l'histoire, tout court, l'histoire de l'art aussi, la psychanalyse, la sociologie des médias, la philosophie. Voilà, c'est ce qui fait aussi toute la richesse de votre livre. Voilà, je vais juste faire un point de méthode. Peut-être si on revient sur l'imagerie, voilà, quel serait l'exemple de film qui aurait marqué voilà, nos auditeurs, par exemple, contenant des réminiscences voilà, des camps ou de l'univers concentrationnaire?
Je vais en citer deux ou trois. Par exemple, dans le livre, un des films qui me sert de fil rouge, c'est le film Soleil Vert. Soleil Vert, qui est un film de Richard Fleischer, qui date de 1973, avec Charlton Heston. À la base, c'est très intéressant de voir comment le film évolue. À la base, c'est un roman. C'est un polar, en fait. Et c'est un polar écologique. Donc, il n'y a pas du tout de mention ou de référence ou d'allusion à la Shoah. C'est un polar qui raconte comment, dans un New York futuriste, la surpopulation fera qu'on aura des difficultés pour se nourrir, etc. L'adaptation à Hollywood passe par un scénariste qui s'appelle Stanley Greenberg, lui-même juif, et l'adaptation va introduire dans l'histoire de ce polar tout un imaginaire qui ne s'y trouvait pas à l'origine, qui est beaucoup plus ancré dans une forme de terreur, de sidération liée au souvenir de la Shoah. Je vais en donner quelques exemples. Le film, je ne sais pas si parce que la fin du film est très célèbre, il ne faut peut-être pas la révéler à ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais en gros, le film met en scène un monde absolument apocalyptique, surpeuplé, étouffant, dans lequel les personnes âgées devenues inutiles sont conduites vers des centres d'euthanasie, où finalement on leur vend une mort heureuse et spectaculaire, où elles assistent à un dernier spectacle, dans lequel on découvre, bouchez-vous les oreilles ceux qui n'auraient pas vu le film, on découvre que la nourriture qui fait justement défaut dans ce monde, les rares plaquettes de soleil vert, comme c'est dit dans le film, sont produite à partir de cadavres. Donc il y a un recyclage, une réification du corps humain qui devient nourriture. Et surtout, le motif qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que lorsqu'il y a des manifestations, la police envoie ce que en anglais on appelle des scoops, c'est-à-dire des pelles, des pelleteuses, comme des bulldozers en fait, qui viennent ramasser des grappes de corps et les engloutir pour les conduire absolument, on ne sait pas où vont ces corps. En réalité, on comprend à la fin qu'ils sont recyclés en nourriture. Et donc on est dans une forme d'univers cauchemardesque qui projette vers le futur un monde d'angoisse qui en réalité a déjà eu lieu. Et finalement, tout le thème, on pourrait dire, de cette partie sur l'imagerie, c'est de donner à comprendre que la science-fiction nous promet pour l'avenir un cauchemar qui en réalité appartient à notre passé. Et elle ne fait qu'inverser les temps. C'est en ça que je m'appuie un peu sur le psychanalyste Winnicott, hein, qui dit que la crainte de l'effondrement, ici on pourrait parler d'un effondrement à la fois de ce qui fait notre rapport aux autres, notre rapport à l'humain, notre rapport anthropologique, on pourrait dire, à cette société qui nous tient ensemble. La crainte de l'effondrement, en fait, qu'on cherche dans le futur, en réalité, elle a déjà été éprouvée.
Et ce motif du bulldozer, on le retrouve aussi bien dans Mars Attacks, par exemple, oui, du Tim Burton.
On le retrouve dans Mars Attacks.
96.
C'est des extraterrestres, donc c'est une comédie satirique. Et à la dernier plan du film, qui dure une vingtaine de secondes, vous avez un bulldozer qui passe dans l'arrière-plan, qui comporte des cadavres de martiens qui ont été éliminés et qui traverse le film comme une réminiscence, comme si, d'une certaine manière, il ne fallait pas y faire attention. C'est quelque chose comme ça qui passe et disparaît. On en retrouve un exemple plus récent dans L'écume des jours, dans le film de Gondry, adapté de Boris Vian, qui justement signifie aux spectateurs que dans ce monde qui a l'air fantaisiste, il y a un fond de violence qui règne et qui est ici, on pourrait dire, annoncé par cette figure du bulldozer qui, sur une patinoire, ramasse des corps.
Alors, on pourrait aussi parler de s'arrêter un peu sur le cas de Spielberg. Vous écrivez « Davantage que la liste de Schindler, La guerre des mondes est certainement le grand film de Steven Spielberg sur la destruction des Juifs d'Europe ». Pourquoi La guerre des mondes alors plutôt que La liste de Schindler, dont apparemment c'est vraiment le sujet?
Oui, alors évidemment La liste de Schindler a été l'objet de nombre de polémiques, donc c'est pour ça aussi que je fais ce renversement, hein, ce film futuriste La guerre des mondes qui en dirait peut-être plus sur la Shoah que La liste de Schindler. Pourquoi? Parce que dans La guerre des mondes, c'est à manière ce que Spielberg parvient à faire, et justement il ne peut y parvenir que par le détour, on pourrait dire, d'un récit qui ne porte pas sur la Seconde Guerre mondiale, c'est à nous faire éprouver cette dimension d'abandon, de déréliction, d'effroi face à une force qui s'abat sur vous, en l'occurrence, bon là c'est les extraterrestres, mais qui sont évidemment une figure de ces forces d'invasion, d'oppression et d'extermination dont les nazis sont l'archétype. Et ce qui est très intéressant avec la guerre des mondes, j'ai envie de dire que ça a toujours déjà été une métaphore du nazisme. Alors vous allez me dire, le récit original de Wells, Herbert George Wells, c'est 1898. Mm. Mais le récit original de Wells commence par un avertissement du narrateur qui explique que finalement ce que les Martiens ont fait aux humains n'est pas si éloigné de ce que les colons britanniques ont fait en Tasmanie. Vous avez en 1938 une adaptation par un autre Wells, Orson, à la radio, où de manière très réaliste il adapte la guerre des mondes et ça va provoquer la légende dit qu'il y a eu des accidents, etc. Mais il y a eu des accidents aussi parce qu'à l'époque on était juste après la tension liée à Munich, hein, donc à l'abandon on pourrait dire d'une partie de la Tchécoslovaquie. Et on avait peur, justement, que les Martiens qui étaient dans la fiction de Wells soient en fait un bombardement et d'une guerre qui commencerait avec les nazis, puisqu'on était dans une angoisse de la guerre à venir. Donc d'une certaine manière, il y a toujours eu cette présence du génocide et cette présence aussi des nazis dans la guerre des mondes.
Vous analysez aussi du même Spielberg le film AI, hein, je crois qu'on dit comme ça en anglais,
oui. Pas Ouais. AI en français, AI, intelligence en français, artificielle.
Voilà, intelligence artificielle, c'était le titre. Je cherchais par rapport à cette angoisse d'abandon aussi qu'a oui. pu éprouver
là aussi, c'est passionnant.
Les enfants dans la Shoah.
Là aussi,
qui a a priori rien à voir aussi. Avec
film qui a priori n'a rien à voir, c'est l'histoire d'un monde dans lequel on fabrique des petits robots, alors toutes sortes de robots, dont des robots de substitution, comme ce petit garçon qui s'appelle David, ce qui est là encore pas forcément innocent. Et en l'occurrence, ce petit garçon va être abandonné par sa mère parce que le père avait acheté un petit garçon pour cette femme dont le fils était dans le coma et qui peut-être ne le reverrait jamais ouvrir les yeux. Et au final, le fils ouvre les yeux et donc ce petit substitut d'enfant qui ressent un amour pour sa mère comme un enfant va être jeté parce qu'elle l'abandonne dans une forêt parce que sinon il va être détruit par la société qui l'a fabriqué. Ça, c'est l'histoire de AI. Quand on se rend compte qu'en fait, au moment où Spielberg récupère AI, qui est un scénario de Kubrick à la base, il le récupère à un moment où Kubrick est mort, puisqu'il ne peut plus le réaliser. C'est forcément, il avait dit que Spielberg pourrait peut-être le faire. Mais Kubrick, au moment où il se remet à travailler sur AI, c'est juste après avoir abandonné un projet qui s'intitulait Aryan Papers, qui était l'adaptation d'un roman, dans lequel on racontait l'histoire d'un petit enfant, qui notamment allait être abandonné dans la forêt par sa mère pour échapper aux nazis, hein, à l'extermination. Et on retrouve finalement une forme de déplacement de cette première histoire, Aryan Papers, film qui ne verra jamais le jour, dans AI. Et Spielberg va en plus y injecter son propre imaginaire, avec évidemment tout le background qui est le sien.
Il y a un autre point très intéressant dans votre livre que je voudrais qu'on aborde, c'est celui de l'instrumentalisation en fait de la Shoah à des fins, on va dire, militantes, puisque finalement de la persistance, on va dire, à l'instrumentalisation, hein, il n'y a qu'un pas et certains le franchissent. Peut-être vous pouvez nous donner des exemples, voilà, parce que c'est un livre aussi où vous prenez position, vous n'hésitez pas non plus à dire à des moments, c'est pour Godard par exemple, qui fait un usage un peu douteux de certains motifs.
Alors Godard, ce serait un dossier, on pourrait dire en soi.
Que je traite,
en effet. Cette idée d'instrumentalisation, c'est l'idée en fait qu'on prend parti et qu'on prend, on pourrait dire, bénéfice de ce que j'appelle persistance, c'est-à-dire du fait que il y a un souvenir des camps qui se surimprime sur notre expérience quotidienne. Exemple, je vais donner 2-3 exemples, ce sera plus clair. Vous avez par exemple des associations, alors de lutte contre l'interruption volontaire de grossesse, de lutte contre, pour le bien-être des animaux. Donc des associations dont les buts peuvent être plus ou moins selon les opinions défendables. À la limite, ça, je me prononce pas là-dessus, c'est pas mon problème. Mais qui vont exploiter cet imaginaire, ce souvenir de la Shoah, ou des camps de concentration, hein, il faut évidemment séparer toujours les deux, à des fins militantes. Par exemple, vous avez sur certains sites anti-IVG des photographies de cadavres de déportés dans lesquelles on vous explique que finalement l'interruption volontaire de grossesse, c'est un nouveau génocide. Vous avez sur des sites de défense des animaux des photographies retouchées, vous avez en haut des corps de déportés de Buchenwald avec une teinte légèrement rosée, et en dessous des cadavres, on pourrait dire, de cochons à l'abattoir, dont la pigmentation est également rosée, donc pour créer une sorte de persistance forcée, d'association forcée chez celui qui regarde ces images-là. Donc on voit une exploitation qui est, là évidemment, odieuse, et plus que douteuse, à des fins militantes. Pourquoi on va chercher cet imaginaire-là? Déjà parce que c'est un imaginaire qui évidemment scandalise, qui mobilise. Encore récemment, il y a eu tout un débat sur un ouvrage qui s'intitule « Le négationnisme économique », je crois. Donc tout le débat,
tout à fait, oui.
Au lieu de porter sur les propositions économiques ou pas, porte sur
l'usage du mot négationnisme appliqué à la science économique.
Voilà. Alors évidemment, les auteurs ont le beau rôle de dire « Bah oui, mais en science, on peut utiliser négationnisme parce que c'est l'idée de nier une réalité scientifique. » Mais ils ne peuvent pas faire comme s'ils ne savaient pas qu'en utilisant négationnisme, ils provoqueraient un débat. Et un débat qui finalement polarise sur la terminologie, ce qu'il ne permet pas de comprendre, ou en tout cas médiatiquement ne permet pas de donner du temps aux questions traitées. Évidemment,
tout
là, je ne mets pas sur le même plan les défenseurs des animaux qui font des choses tout à fait douteuses et ces auteurs. Godard va faire dans ses montages parfois des rapprochements, là aussi qui sont tout à fait douteux et contestables. Par exemple, le premier qui me vient, c'est dans Ici et ailleurs, donc un film qui date de 73, un rapprochement entre le terme musulman, qui désigne dans le système concentrationnaire ces déportés qui sont arrivés au dernier stade de l'épuisement, et le terme musulman avec une photo de palestiniens, donc évidemment en 73, il y a déjà tout ce conflit israélo-palestinien qui est très présent dans son cinéma, avec l'idée finalement de créer par le montage, puisque ça peut se justifier dialectiquement, on pourrait dire par une opération de pensée que le cinéma permet, de créer une association entre le sort ancien des Juifs et le sort présent des Palestiniens,
ouais.
Et donc, du fait de ce montage, une équivalence. Alors évidemment, Godard et puis ceux qui le défendent pourront toujours vous dire « Mais non, mais il s'agit peut-être de dépasser l'opposition et l'équivalence, c'est pas un signe d'égalité. » Mais en réalité, l'effet produit, c'est évidemment un effet discursif qui tend à mettre sur le même plan de réalité historique qui pourtant n'ont absolument rien à voir. Et donc c'est en ça qu'il y a une forme d'exploitation d'images concrètes, d'images d'archives et d'un imaginaire plus largement.
On sent chez vous d'ailleurs un amour déçu pour Godard après l'analyse de ses films, non? Ou alors vous...
Alors c'est compliqué parce qu'évidemment c'est un immense, absolument immense cinéaste, il n'y a rien à dire là-dessus. En revanche, il faut toujours faire la part des choses avec ce qu'il y a de... Moi j'utilise l'adjectif douteux dans ses traits d'humour. Dans son usage, par exemple, pour donner quelque chose de très concret, il utilise toujours les lettres SS... dans toutes sortes de jeux de mots, dans toutes sortes de films. Par exemple, Kissinger, à un moment donné, il va montrer la photo de Kissinger, il va retirer toutes les autres lettres que les deux S au milieu de son nom, et forcément, on associe Kissinger à un SS par rapport, évidemment, à la guerre du Vietnam. Mais quand on sait que Kissinger est lui-même un ancien juif allemand qui a fui l'Allemagne, etc., on voit le côté douteux qui consiste à renverser...
Ça relève de la manipulation, voilà. Là, vraiment.
Ça relève de la manipulation. Dans Lutte des classes aussi, il va utiliser les deux S, etc. Enfin, je pourrais en citer... plusieurs comme ça de la part de Godard.
Au terme de ce travail, et c'est aussi le terme de notre émission, quels sont finalement pour vous les films qui rendent le mieux justice, je dirais, à la Shoah, si on peut dire rendre justice, c'est-à-dire qui sont parvenus, on pourrait dire, à se hisser à la hauteur de l'événement?
Alors c'est une question difficile parce que précisément, il s'agit de films qui sont travaillés par l'événement et qui ne vise pas nécessairement consciemment à représenter ou à faire allusion à cet événement. Parfois oui, parfois non. Mais il me semble que certains films permettent de l'éprouver. On a parlé de la Guerre des Mondes et de A.I. de Spielberg. Certains films d'Alain René, en effet, Je t'aime est intéressant de ce point de vue-là. Les films de Chantal Akerman et de Marguerite Duras sont particulièrement beaux. Ils sont évidemment peut-être moins connus, mais ils sont très profond et très profondément travaillé par cette mémoire-là.
Jeanne Dielman notamment.
Jeanne Dielman et puis les films d'Aurélia Steiner de Marguerite Duras.
Merci beaucoup, Ophir Lévy. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce livre dont je recommande la lecture, Images clandestines, métamorphose d'une mémoire visuelle des camps. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.